Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, à nouveau une émission de philosophie, Osons la philosophie avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Penchée dans ses livres, les marque-pages pour choisir les bons textes à lire, puisque dans ces émissions, il y a toujours bien sûr des lectures. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre un titre plus court, hein, puisque vous avez intitulé cette émission « Pourquoi Socrate ?»
Oui, là, pourquoi, c'est Socrate pourquoi Socrate ? Bon, la tradition philosophique veut que, bien sûr, Socrate soit la figure idéale de ce qu'on appelle, et toute la question est là, ce qu'on appelle la philosophie, ou plutôt l'acte de philosopher. Donc, qu'est-ce qui peut justifier le fait que cet homme, qui n'a jamais écrit, il n'a rien écrit, par contre il a beaucoup parlé, et il a beaucoup parlé à des disciples qui se pressaient en foule autour de lui, mais il n'était pas le seul. Il n'est pas le seul à avoir cette cour, souvent d'ailleurs de jeunes gens de la haute aristocratie athénienne. Il ne l'était pas, lui, hein, puisque parallèlement à lui, il s'agit bien de parallélisme, il y avait ce qu'on appelait les sophistes. Donc Socrate, le penseur inaugural de l'interrogation philosophique, côtoyant, et la relation était souvent à la fois amicale et ironique, enfin, mais il n'y avait pas de dissension ni de violence, donc Socrate côtoyait ces sophistes. Alors, le mot de sophiste, lui, a pris un sens tout à fait péjoratif, mais philosophe, sophos, voilà, la question est déjà là.
Oui. Hein? Alors moi, j'avais proposé comme titre plutôt Socrate, le philosophe idéal, mais vous préférez pourquoi
oui,
Socrate
alors,
parce
moi,
que ça pose davantage la question.
Alors, ce qui m'intéresse, puisque ce dont je vais parler, c'est essentiellement du dialogue de Platon qui s'intitule Apologie de Socrate. Ce que l'on voit apparaître dans ce dialogue, c'est justement la personnalité en formation de ce qu'on appellera et de ce qu'on appelle déjà un philosophe, c'est-à-dire essentiellement un être qui, et c'est tout Socrate, qui ne sachant pas, hein, étant dénué de savoir ou de science ou de sagesse, pourtant, invite par son questionnement, par ses interrogations souvent très entrelacées les unes avec les autres, il invite son entourage à réfléchir avec lui.
Voilà. Donc le mot philosophie, en fait, est apparu avec Socrate.
Alors, nous allons voir que le mot de philosophos, philosophe, a d'abord une première acception et une seconde. Et justement, la conversion, elle est faite par l'œuvre de parole de Socrate. Alors, ce qui est intéressant dans le personnage de Socrate aussi, et c'est ça tout à fait, c'est tout à fait étrange qu'on l'ait pris comme figure idéale, c'est son caractère étrange. Parce que ce qui revient toujours dans les appréciations qu'ils ont faites de son temps, de la personnalité de Socrate, il est atopos. Il est atopos, ça veut dire qu'il est
étrange.
Topos, qu'il est étrange et il est à la limite sans lieu. Hein, topos, le lieu.
Oui. Hein,
il est d'une topographie, je dirais, tout à fait étrange. Alors, bien sûr, c'est un citoyen d'Athènes. Un citoyen d'Athènes qui est, on dit qu'il est pauvre, mais enfin, il est moins pauvre que ça. Mais il est citoyen. Il est citoyen, on le pressent dans tous ses dialogues, une formidable culture sur les sagesses qu'il précédait, puisqu'il cite beaucoup ce qu'on appelle malheureusement les présocratiques. Bon, c'est un homme extraordinairement subtil et cultivé, qui a un art de la parole tout à fait exceptionnel. Alors, notre problème est le suivant, c'est que cette personnalité de Socrate, elle est mise en scène, et c'est une véritable scénographie, par son disciple Platon. Je rappellerai les dates.
Oui,
si je
approximative, puisqu'il y a toujours un petit doute. Hein, 470 avant Jésus-Christ pour Socrate. Et il a été condamné en...
Il a été condamné à mort en 399.
Oui, parce que quand on parle de Socrate, on parle aussi de sa condamnation.
Oui, hein. Et c'est le thème. Et ouais. C'est notre thème.
Et Platon l'a connu.
Alors, oui. Alors, Platon, c'est lui qui, dans cette dramaturgie absolument éblouissante, c'est un très grand texte littéraire, érige en quelque sorte la statue de Socrate et nomme pour la première fois cette personnalité étrange, philosophe. Alors, il ne faut pas oublier du tout que le philosophe, c'est un personnage étrange dans la cité, qui est en rupture par rapport aux idéaux classiques de la cité d'Athènes. Nous sommes dans le cadre de la démocratie.
Et c'est pour ça qu'il est accusé. Enfin, c'est de ça dont il est accusé.
Oui. Alors, nous allons voir quelles sont les raisons de cette accusation. Donc, revenons à Platon. Platon met en scène Socrate, la sublimité de Socrate, dans un moment, évidemment, d'une très grande tension dramatique, qui est celui de son procès. Alors, très simplement...
Il y a assisté. C'est
Socrate,
c'est
oui, véridique. Socrate a eu pour disciple Platon, et Platon a vraisemblablement, les témoignages se corroborent, assisté au discours de défense de Socrate. Alors, le titre, Apologie de Socrate, le mot apologie, apologia désigne en grec ancien, eh bien, non pas une apologie, ce qui est inconcevable, enfin au sens moderne, parce que Socrate fait tout, sauf l'apologie de lui-même. Le mot apologia, c'est simplement le discours de défense lorsque un homme est présenté et accusé. Alors, le système qui est mis en scène, toujours par Platon, il faut revenir toujours à Platon, le système qui est mis en scène, c'est celui d'une scène de tribunal, et j'ai bien, il s'agit d'une scène, d'un drame, d'une théâtralisation par l'écriture de Platon lui-même. Bon, d'un moment tout de même, effectivement, dans les faits très dramatiques.
Oui, tragique.
Très tragique, enfin c'est une tragédie, voilà. De la vie, non seulement de Socrate, mais de la vie d'Athènes.
Oui.
Alors que disais-je? Eh bien, ce dont il s'agit, c'est d'un procès qui est intenté, dans le cadre de la démocratie, qui est intenté par des accusateurs, ils sont trois, il y a un premier procès, un deuxième procès, il y a un procès latent, disons. Mais le procès auquel nous assistons, c'est le procès effectif où tout le dispositif, toute la mise en scène, toute la théâtralité de la procédure devant un tribunal. Alors le tribunal, il y a des juges et il y a le peuple, puisque le peuple est lié aux juges et la décision des juges est celle de la population. Voilà. Donc nous avons une grande plaidoirie de Socrate qui se défend et ne se défend pas. Des accusations qui sont portées contre lui. Alors, quelles sont ces accusations?
Est-ce que l'issue du procès était acquise d'avance?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Alors, les accusations. Il y a une accusation devant le tribunal, mais elle a été précédée par des accusations flottantes qui ont déjà été mises en scène, parce que nous sommes vraiment dans un monde
théâtral,
par Aristophane, dans une comédie. Alors on montrait chez Aristophane, et c'est manifestement quelque chose de tout à fait faux, enfin, un être total, une espèce d'hurluberlu qui, s'intéressait au cosmos, à la physique, et c'était le sens du mot de philosophe, le premier sens du mot philosophe désignait des penseurs qui, justement, interrogeaient l'ordre du monde, l'ordre du monde, en grec c'est cosmos, c'est ça que ça veut dire, mais aussi qui essayait de définir quels étaient les éléments principaux qui formaient la nature étant une puissance évidemment. Tout cela évidemment enveloppé, si je puis me permettre, dans un monde où les dieux sont présents. Les dieux sont là, comme a dit un célèbre helléniste allemand. Die Götter sind da. Götterzinda. Voilà, les dieux sont là, il ne faut pas oublier les dieux, puisqu'il s'agira des dieux et d'un dieu. Alors, première condamnation, mais une condamnation encore une fois flottante, bien que mise en scène, à l'encontre des élucubrations d'un certain Socrate. Mais ce dont il s'agit aujourd'hui, puisque nous assistons à la scène, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est véritablement d'un procès dans les formes dues par la démocratie grecque. Alors voici quelle est l'accusation. Et c'est Socrate qui parle, parce que Socrate va construire son discours de défense en reprenant point par point, d'une manière parfaitement logique, les deux éléments principaux, il y en a trois, mais les deux éléments principaux de l'accusation. Alors ceci. « J'en ai assez dit pour me défendre auprès de vous contre les accusations portées contre moi par mes premiers accusateurs. » Alors encore une fois, les premiers accusateurs sont des poètes. Hein. « C'est maintenant contre Mélétos, qui est-ce, bon citoyen, ce patriote comme il se qualifie, et contre mes récents accusateurs que je vais tenter de me défendre. En effet, il nous faut, voyez-vous, revenir en arrière, et faisant comme si ces accusations, les nouvelles, étaient distinctes des précédentes. » Bon, alors, voici l'accusation. Je lis, je cite. Socrate citant l'accusation. Hein. Elle se présente à peu près ainsi. « Socrate, dit-elle, l'accusation, est coupable de corrompre la jeunesse et de reconnaître non pas les dieux de la cité, ceux que la cité reconnaît, mais au lieu de cela, des divinités nouvelles. Ainsi se présente la plainte, et cette plainte, nous allons l'examiner à fond, point par point. Premièrement, suis-je coupable de corrompre la jeunesse? » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'enseignement de Socrate, enseignement encore une fois oral, de quelqu'un qui, enfin d'un Socrate qui se promène dans les rues d'Athènes, il n'a pas d'école, hein, il n'y aura pas d'école. Platon, par exemple, et Aristote construiront vraiment des écoles. Tel n'est pas le cas. Il y a une promenade, une promenade tout à fait libre dans les rues d'Athènes où sont interpellés tel artisan, tel personnage célèbre. Enfin, tout cela est très fluide, très démocratique, en ce sens, au bon sens du mot.
Hein. Mais il est écouté. Je veux dire, les gens s'arrêtent pour l'écouter.
Mais il est écouté. Alors d'abord, il est suivi comme les sophistes. Il est suivi par ces jeunes gens qui, d'ailleurs, suivent les uns comme les autres. Hein, et en toute bonhomie, je dirais. Ouais. Bon, il n'y a pas de problème à ce titre. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont ces doubles accusations. Alors, corrompre la jeunesse, et Socrate ne cesse de dire que sa fonction, c'est de rendre les jeunes gens meilleurs. Donc, il instaure d'une manière totalement originale, d'une certaine manière, une éducation, mais une éducation qui, nous le verrons, va à l'encontre des valeurs culturelles de la cité d'Athènes qui sont orientées par l'excellence politique. Donc la formation des jeunes Athéniens de la haute, cette formation, c'est une formation qui consiste à les inciter à mettre en avant, mais d'abord les avoir comprises, à mettre en avant les valeurs fondamentales de la cité. Et la cité d'Athènes, c'est la puissance. Ce qui caractérise la cité d'Athènes, c'est bien sûr qu'elle peut avoir un régime tyrannique ou démocratique, mais c'est une cité qui vit de sa puissance. Et la politique, c'est tout de même l'art de la puissance, avec évidemment un à côté qui n'est pas négligeable, qui est celui de l'engagement dans toutes ces guerres, que pour assurer son hégémonie, puisque le mot est là, Socrate fomentera. Voilà.
Mais je croyais que, enfin, vous m'aviez dit que Socrate refusait toute activité politique.
Oui, alors
politique.
Nous y viendrons, oui. Alors l'accusation à l'encontre de Socrate, elle tient à ceci, qu'il corrompt la jeunesse. Hein. Au lieu de l'édifier vers ses valeurs civiques, au contraire, il semble qu'il les inquiète. Alors en effet, Socrate explique comment il a pu démontrer que les personnages, je dirais, les plus représentatifs, les figures les plus fortes de la cité d'Athènes, il a pu démontrer que ces gens qui prétendaient savoir ne savaient rien. Or, nous avons la fameuse formule de Socrate, qui est celui du « moi,
je ne sais pas.
Je suis vide, kénos, en matière de sagesse et de savoir. » Alors, Sophia, la sagesse, ou le savoir, puisque les deux sont indissociables pour la pensée grecque. Alors, que fait Socrate, qui lui vaut beaucoup d'ennuis?
Bon, en fait, il leur apprend à douter, quelque part.
Je ne suis pas sûre qu'il leur apprend à douter. Il leur apprend,
à remettre en cause.
Il leur apprend, par l'interrogation, à ruiner toutes les prétentions des uns et des autres au savoir. Alors, quels sont ces uns et ces autres? Bon, eh bien, d'abord, Socrate s'adresse à tous ceux que la cité d'Athènes considère comme prestigieux. Alors, corruption de la jeunesse, d'une part, et plus tard, introduction de nouveaux dieux dans la cité. Mais entre-temps donc, et comprendre d'avance ce que Socrate va signifier lorsqu'il dit « moi, je sais que je ne sais rien », Socrate donc interroge ceux, disais-je à l'instant, qui sont les figures idéales de la cité d'Athènes. D'abord, les hommes politiques. Et il s'aperçoit que les hommes politiques sont ignorants, et ignorants en particulier de ce qui doit orienter toute action politique, la justice. Ils ne savent rien. Dès qu'on les interroge autrement que sur leur politique pragmatique, ils sont muets. Ensuite, il interroge les poètes. Alors, les poètes sont aussi parmi les sophoi, ceux qui sont censés savoir. Or là, il y a une remarque tout à fait intéressante de Socrate qui dit, eh bien, les poètes, eux non plus ne savent pas. Alors, pourquoi ne sont-ils pas, porteurs de science? Parce que tout leur génie tient à l'inspiration divine. Donc, si vous voulez, cette excellence qui est la leur, et les poètes, on pense bien sûr à Homère, qui est abondamment cité, bien sûr, dans ce dialogue, les poètes ne sont pas des hommes de science, en quelque sorte. Ce sont véritablement des personnages qui sont comme les devins, les porteurs d'un message divin qui, d'une certaine manière, passe à travers eux. Alors, il y en a peut-être qui savent. Alors là, c'est intéressant. Ce sont les artisans. Les artisans, ils ont des savoir-faire. Alors, des savoir-faire en toute, sûreté. Mais ce sont des savoir-faire...
Manuels.
Manuels, c'est pas ça qui gênerait Socrate. Mais ce sont des savoir-faire partiels.
Ouais.
Donc, un artisan, il est artisan pour telle ou telle chose. Voilà. Donc, ce qui a motivé les premières accusations de Socrate, c'est bien ce style interrogatif qui ruinait les prétentions des uns et des autres. D'où l'accusation, d'où les accusations plurielles qui relèvent justement d'un ressentiment. Nous saisissons bien à travers le propos de Socrate qui explicite les raisons, qui analyse les raisons pour lesquelles il est victime de ces accusations flottantes et d'une accusation plus spécifique sur laquelle nous allons revenir, c'est le ressentiment. Je dis bien le mot ressentiment, je ne le vois pas apparaître dans la langue grecque, mais c'est bien ça. C'est-à-dire que tous ceux qu'il a interrogés, dont il a ruiné la prétention à l'excellence, ont vis-à-vis de lui un énorme ressentiment.
Donc ce qui incite à une sorte de vengeance.
Oui.
La vengeance la plus terrible.
Alors on voit bien que sous-jacente à toutes ces accusations, et donc au procès dont nous allons parler de manière tout à fait spécifique, il y a, vous le dites à l'instant,
la vengeance.
Un esprit de vengeance. Vous voyez, ce sont des termes, ressentiment, esprit de vengeance, ce sont des termes nietzschéens. Et je dirais que là, on n'est pas loin d'une analyse à la Nietzsche du procès de Socrate, quelles que soient d'ailleurs les positions très ambivalentes de Nietzsche par rapport à Socrate.
Alors on va écouter Eric Satie, qui a écrit La mort de Socrate, et on a choisi un extrait chanté.
Ce qui est alors vous comprenez bien, à partir de ce que j'ai esquissé, à quel point... Socrate, le procès de Socrate tel qu'il est relaté par Platon, fournit une dramaturgie tout à fait exceptionnelle dont on peut s'emparer lorsqu'on est au théâtre ou à l'opéra, où là, bon, là, il s'agit d'un, je ne sais pas comment nommer la pièce de Satie.
Alors sur Radio Alliance Plus, Françoise Gernot va terminer cette première émission. Pourquoi Socrate ? Et on continue sur cette accusation de corruption de la jeunesse avec ce ressentiment, ce désir de vengeance.
Oui, alors je reviens un tout petit peu en arrière parce que ce que l'on reproche à Socrate, c'est précisément aussi de ne pas savoir et de ne pas agir, et de ne pas agir au nom d'un savoir. Et quid ? Quel peut être, cependant, le savoir de Socrate, pour autant qu'il en ait un, qui lui permet justement, qui l'autorise si imprudemment, si impunément, si, à interroger, comme je viens de le dire, donc, les personnages dits excellents de la cité. De quelle sorte de savoir, je lis le texte de Platon, de quelle sorte de savoir peut-il bien s'agir ? C'est Socrate qui parle de lui-même. Hein ? Socrate s'interroge lui-même. De quelle sorte de savoir, puisqu'on me reproche d'être un sophos, hein, d'être un sage qui démolit tout, de quelle sorte de savoir peut-il bien s'agir ? De celui précisément, je suppose, qui se reporte à l'être humain. Je reprends, de celui qui précisément, je suppose, se rapporte à l'être humain. Hein ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Socrate lui-même, interrogeant sur ces accusations qui sont portées contre lui et qui mettent en cause ce qu'on pressent bien comme sa Sophia, hein, sa sagesse, ce qu'il essaie d'interpréter, c'est ceci. C'est que, je suppose, hein, c'est que son enseignement a pour fin l'être humain. Hein. Mon enseignement se rapporte à l'être humain. Alors, le terme grec est assez fort aussi. Hein. C'est une science qui est une Sophia une sagesse qui vise l'humain. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie d'abord négativement, et ça explique tout ce qui précédait. Ça signifie... d'une part, que le propos de Socrate ne concerne pas, comme c'était le cas pour les Sophoi anciens, qui parfois d'ailleurs sont ses correspondants. C'est un savoir qui ne correspond pas à l'étude des éléments de la nature et du cosmos. C'est un savoir qui n'est pas non plus un savoir politique, hein, ni l'un ni l'autre. Donc l'essence, si j'ose dire, du savoir de Socrate, s'il en a un, à avoir. Mais sans le voir, ce n'est pas un savoir positif, c'est un savoir négatif, c'est un savoir en négatif. Ce savoir, il a à voir avec une certaine sagesse humaine. Voilà.
Ce que lui reprochent en fait ses accusateurs.
Mais ce que lui reprochent ses accusateurs, indépendamment du ressentiment, hein, sont bien des faits intellectuels, des positions intellectuelles qui tiennent justement à son caractère de personnage en retrait des valeurs majeures de la pensée athénienne, en particulier la politique.
Donc il est dangereux.
Il est dangereux, oui, il est dangereux, c'est le ver dans le fruit. Mmh. Alors, première accusation, corrompre la jeunesse, c'est la première accusation, elle tient à cela. Mais auparavant, puisqu'on conteste, puisque la cité conteste le savoir, la Sophia de Socrate, Socrate qui lui-même d'ailleurs, nous allons le voir, ne se pare d'aucune espèce de connaissance, d'aucune sorte, ceux-là donc, qui contestent Socrate, la pseudo-sagesse de Socrate, d'une certaine manière, renforce ce que Socrate pense de lui-même. Voilà. Alors, le moment le plus essentiel, il y a deux grands moments. C'est le moment où Socrate explique comment un de ses amis, ou explicite, ou raconte, comment un de ses amis a consulté l'oracle de Delphes et a justifié, grâce à l'oracle de Delphes, précisément, ceci que Socrate est le plus sage de tous les Grecs. Mmh. Alors, voici la scène. Je produirai devant vous comme témoin le dieu de Delphes. Témoin. Nous sommes dans le vocabulaire juridique. Vous connaissez sûrement Chéréphon. Ce fut pour moi un ami d'enfance et pour vous un ami du peuple. Aussi, dut-il, il n'y a pas si longtemps, partir en exil et en revint avec vous. Vous savez bien quelle sorte d'individu était Chéréphon. Quelle impétuosité il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. En particulier, un jour, il s'était rendu à Delphes. Il osa consulter l'oracle, l'oracle d'Apollon, la Pythie, vous savez ça. Hein ? Il osa consulter l'oracle pour lui demander, et n'allez pas, je le répète, m'interrompre par vos cris, citoyens. Parce qu'il y a du chahut dans la salle.
Oui, on imagine bien.
Voilà. Un jour où il s'était rendu à Delphes, il osa consulter l'oracle pour lui demander, n'allez pas, m'interrompre, si en fait il pouvait exister quelqu'un de plus savant que moi. Sophotéron. Hein, Sophos, toujours Sophos. Plus savant que moi. Et sur ce point, c'est son frère qui portera témoignage parce que Chéréphon est mort. Alors, je vous laisse sur ce suspense, puisque nous le savons d'avance, et j'y reviendrai. Donc, l'oracle d'Apollon déclare que Socrate est le plus sage de tous les Grecs, ou le plus Sophos de tous les Grecs. Voilà.
Donc, ça ne va pas plaire à ses accusateurs.
Oui, mais ce qui est intéressant, et c'est la suite au prochain numéro, c'est la manière dont Socrate, lui, interprète cette parole qui, comme toute parole apollinienne, est énigmatique. Voilà.
Alors nous verrons dans la seconde émission le second chef d'accusation, mais qu'on a déjà abordé avec le côté divin.
Oui.
Merci Françoise, à très bientôt.